cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jeotard le 17 février 1988.
Pose cette question. En réfléchissant sur la qualité, je me demande si on devrait distinguer d'une part la qualité qui est purement un avoir, c'est-à-dire une qualité acquise et possédée, comme la vertu, la bonne volonté de l'homme, et d'autre part la qualité qui dépasse l'avoir et qui est une réflexion, la sagesse. Refléter la lumière, c'est un recevoir et un donner, tout en même temps. C'est ce qui caractérise le miroir ou le cristal. Il y a là un acte qui est à la fois actif et passif. Or, le passif et l'actif caractérisent le devenir, le jeu des oppositions qui cause le mouvement. Au niveau du monde physique, l'actif et le passif sont toujours réciproques. Le vent meut l'arbre, mais l'arbre change la direction du vent un peu aussi. Seulement, dans la personne humaine, n'y a-t-il pas une action pure, le volontaire, et une passion pure, l'involontaire? Donc, dans la réflexion, dans le refléter, il y a une unité de l'être, une unité de l'être, de l'avoir et du devenir. Autrement dit, la sagesse n'est-elle pas une qualité, un avoir qui vient s'ajouter à l'être de la personne humaine et qui, en même temps, assume le devenir sans le supprimer? C'est bien? Comme réflexion, voyez, c'est une distinction des qualités qui se prennent plus de la cause efficiente. D'où viennent-elles? C'est vrai, il y a des qualités qui sont un avoir et qui sont un avoir acquis. Ça, tout à fait d'accord. Et puis, il y a des qualités qui dépassent l'avoir. Alors, dire que c'est une réflexion, c'est très délicat, ça. Parce qu'alors on a introduit le point de vue de la connaissance, le point de vue de l'intelligence. La sagesse, c'est vrai. Elle implique une réflexion. Mais est-ce que ça change la qualité? C'est là toute la question. Est-ce que la cause efficiente modifie nécessairement la détermination, le tiesti de la qualité? Ce que nous cherchons, c'est savoir ce qu'est la qualité. C'est très vrai que les qualités proviennent de causes très diverses. Il y a des qualités acquises, il y a des qualités qui peuvent provenir d'une certaine réflexion. C'est encore de l'acquis, du reste, une réflexion. Mais qui implique le point de vue de l'intelligence, plus. Donc la vertu aussi implique le point de vue de l'intelligence. Alors, c'est bien, mais je crois qu'il faut dépasser ça pour toujours. C'est ce que nous recherchons. C'est le tiesti. Qu'est-ce que c'est que la qualité? Et pas tellement d'où ça vient. C'est intéressant. Point de vue descriptif, point de vue de la cause efficiente, point de vue de l'exercice. Vous voyez, dans une perspective plus phénoménologique, on regarde le point de vue de l'exercice. Dans une perspective plus métaphysique, on se pose la question, qu'est-ce que c'est que la qualité? C'est le tiesti de la qualité que nous cherchons. Et le tiesti de la qualité dépasse le point de vue de son origine. Et qu'est-ce que c'est que la qualité? C'est ça la très grosse difficulté, c'est le point de vue de l'être. Alors la distinction être et avoir, c'est très bien. Au plan métaphysique, est-ce que cette distinction signifie quelque chose, puisque l'avoir est de l'être? C'est évident au point de vue métaphysique, l'avoir est de l'être. J'ai des vertus. Et ces vertus sont une certaine modalité d'être. voir est comme un être second. De sorte que, au plan métaphysique, la distinction être et avoir demande d'être dépassée. Et le devenir est du côté de la cause efficiente. Et ne me dit pas ce qu'est la qualité. Vous voyez ? Enfin, c'est ça la très grosse difficulté de la métaphysique. C'est que je me place du côté de l'être. Peu importe que le devenir m'ait apporté une nouvelle modification. C'est quelque chose de second. Toutes les qualités sont un avoir. Je veux dire, tous les accidents sont un avoir. L'avoir, c'est un être qui vient s'ajouter. L'avoir, si je voudrais préciser ce que c'est que l'avoir, je dirais que l'avoir implique l'usage. J'use des qualités, tandis que je n'use pas de ma substance. C'est pour ça que l'avoir, la substance, n'est pas un avoir. Est-ce que le corps est un avoir? Oui, j'use de mon corps. Mais je crois que l'avoir est très lié à la propriété. À l'usage. Parce que la propriété, c'est l'usage. Alors, c'est dans quand la cause efficiente? C'est pour ça que c'est intéressant une question comme celle-là. Parce que ça fait mieux comprendre ce qu'est la perspective métaphysique, qui est verticale. C'est l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être de la qualité? Et quand vous dites l'avoir, c'est sûr, c'est un avoir. Mais ça ne me dit pas ce que c'est que l'être. Quel est l'être de l'avoir? Et on doit aller jusque-là. Quel est l'être de l'avoir? Je crois que l'être de l'avoir, c'est un être particulier, dans sa modalité particulière, qui est lié à l'exercice. J'use. Et la fameuse distinction de saint Augustin, qui est un peu néoplatonicienne, mais qui est quand même très intéressante. L'outil et le fruit. Ce dont on se sert, ce qui est au contraire ce dont on jouit. C'est un peu l'être et l'avoir. On jouit de l'être, métaphysiquement. La plus grande jouissance, c'est de faire de la métaphysique. On jouit de l'être, ça c'est. L'être nous est donné et nous le contemplons. Tandis que je ne vais pas contempler mon avoir. Sauf si je suis un avare. Le propre de l'avare, selon Molière, c'est de contempler son avoir. Il compte ses sous. Vous voyez? Vous comptez vos vertus tous les soirs. Hein, et ça vous met dans une joie extraordinaire. Un peu plus de vertus ce soir que hier. Vous voyez, on compte son avoir. On ne le contemple pas. Accumule. On accumule l'avoir. L'être s'accumule pas. L'être, il est. Et il est contemplé. Et c'est de l'ordre du fruit. J'ai la joie. C'est la présence. Tandis que l'outil, c'est on use de tout ce qui est de l'ordre de l'avoir. Je crois que l'ordre de l'avoir, on s'en sert. Alors vous voyez, c'est très bien. Ça, je crois que c'est intéressant comme voie d'accès. Alors, dépassons. Et alors, est-ce que la réflexion qualifie l'être? Je pose la question. Hein. C'est très bien de poser des questions, parce que comme ça ça oblige de purifier notre manière de voir. Est-ce que la réflexion qualifie l'être? La réflexion est de l'ordre de l'intentionnalité. Ce n'est pas directement l'être. Là encore, vous voyez, du côté épistémologique, la réflexion va qualifier quelque chose. C'est très vrai. Mais du côté métaphysique, la réflexion est encore du côté du devenir. J'acquiers la sagesse en réfléchissant. Mais la sagesse n'est pas réflexion, elle est contemplation. La contemplation est au-delà de la réflexion. Quand je reste dans la réflexion, je reste encore dans la méditation. C'est la voie d'accès à la contemplation. Vous voyez? De sorte que, si on reprenait ça et l'on analysait, on verrait que on demeure là dans la perspective de l'exercice. Et on ne touche pas le ti-esti. Qu'est-ce que c'est? C'est très souvent par l'exercice qu'on atteint le ti-esti. C'est très vrai. Mais le ti-esti est autre chose que l'exercice. Et ça, c'est la faiblesse de la phénoménologie, de ne pas distinguer les deux. Et de croire que c'est l'exercice qui détermine. La détermination profonde est autre chose que l'exercice. De sorte que, on revient toujours à cette question, qu'est-ce que c'est que la qualité? Et on voit que c'est très difficile pour notre intelligence de saisir la qualité, tellement elle est simple. Elle n'a pas du tout la simplicité de la substance. La substance est simple comme principe. La qualité n'est pas principe. Dans l'ordre de l'être, elle est seconde. Donc, elle est à la fois relative et elle s'impose. Elle est à la fois relative puisqu'elle regarde la substance. Elle s'impose parce que justement, elle a quelque chose de particulier dans l'ordre de l'être. Je ne dis pas une fonction, parce que les fonctions, c'est déjà en dehors de l'être. L'être n'est pas fonctionnel. On verra à propos de la relation. La relation va montrer qu'il peut y avoir dans l'être, et à partir de l'être, quelque chose de fonctionnel. Mais la qualité n'est pas fonctionnelle. Elle est. Alors j'avais dit manifestation, détermination. Plus on y réfléchit, plus on voit que c'est ça la qualité, c'est la détermination. Donc c'est bien la forme, en comprenant que la forme, c'est la détermination. Mais que la qualité a quelque chose de plus, parce que cette détermination peut être, et même en tant qu'elle est qualité, elle est toujours ouverture vers quelque chose d'autre. À ce point de vue-là, vous voyez, on serait tenté de dire que la qualité est dans l'être un rôle de médiation. Je me demande si on ne devrait pas creuser un peu ça. La qualité dans l'être, un rôle de médiation. Elle permet à la qualité, à la substance de se manifester. Elle permet à la substance de se manifester et d'opérer, de sortir de sa solitude. Et elle permet le contact avec quelque chose d'ultime. Donc c'est bien un rôle de médiation. Et c'est peut-être à cause de ça que c'est si difficile de saisir la qualité. Alors c'est ça qui serait très intéressant de se poser la question. Parce qu'on parle tout le temps du médiateur, mais qu'est-ce que c'est que le médiateur au plan métaphysique? Est-ce que le médiateur au plan métaphysique, c'est pas justement celui qui, d'une main, touche l'un et de l'autre s'ouvre vers l'autre. Voyez, dans cette petite note, quand on met justement que, d'une certaine manière, la qualité va faire l'unité de l'être, de l'avoir et du devenir. Alors, est-ce que c'est le rôle de la médiation? C'est très vrai que la qualité a quelque chose du côté de l'avoir. Mais ce que je cherche, c'est son lien avec l'être. Qu'elle a quelque chose avec le devenir, c'est très vrai. Telle qualité liée au devenir. Alors est-ce que c'est un rôle de médiation? Vous voyez, là, il faudrait regarder. Je crois que la philosophie heideggerienne est une philosophie qui n'atteint pas l'être. C'est terrible de dire ça, mais je crois qu'on doit le dire. elle demeure au niveau de la qualité. Il y a une confusion entre qualité et être dans Heidegger. Puisque la substance n'est présentée que comme présence. Est-ce que ce n'est pas justement la qualité qui rend un être présent? Je suis présent à vous par mes qualités. Hein. C'est pour ça que vous voyez tout de suite mes défauts. Quand on se présente à quelqu'un, on est présent à lui par ses qualités. Et on saisit tout de suite ses défauts. Vous voyez ce que ça veut dire? Parce que vous saisissez par là le manque de présence. On voudrait que la présence soit totale. Lavel parle tout le temps de la présence totale de l'être. La présence totale de l'être. Mais l'être n'est pas présent. C'est les qualités de l'être qui sont présentes et qui permettent le contact. Mais c'est par les qualités que l'être se manifeste. C'est par les qualités que je puis toucher l'autre, l'atteindre. Je crois qu'une philosophie à la manière de Heidegger est une philosophie qui n'a pas complètement dépassé la phénoménologie, qui n'a pas complètement dépassé Kant. C'est difficile de dépasser Kant. Kant a, il a donné un coup très très dur à la métaphysique. Et c'est très difficile, après Kant, après Hegel, de redécouvrir l'être. De redécouvrir l'être indépendant du devenir. Et très souvent, on reste dans un lien entre les deux. Et le devenir nous fait découvrir l'être. Non. L'être s'impose par lui-même, indépendamment du devenir. Mais il y a dans l'être certaines modalités de l'être qui unissent l'être et le devenir. Et c'est ça que j'appelle la médiation dans l'ordre de l'être. Alors est-ce que la qualité, c'est justement cette médiation? Je me demande. Je me pose la question. Le médiateur, c'est un être déterminé. Et c'est un être déterminé qui n'est pas déterminé pour lui. Qui est déterminé pour un autre. C'est le propre du médiateur. Il est déterminé pour un autre. Celui qui est déterminé pour lui, la substance, c'est l'autonomie. La qualité, c'est pas l'autonomie. Est-ce que c'est pas la médiation? Est-ce que la qualité n'est-elle pas ce qui va relier? N'est-elle pas ce qui va permettre, qui va réaliser ça, qui va faire ces liens? Un être qualitatif est un être qui relie, qui est présent. Nous aurions, au plan surnaturel, au plan de la foi, un exemple merveilleux avec la charité. C'est la charité, la sainteté. Alors qu'est-ce que c'est que la sainteté? C'est la qualité d'un être. La qualité profonde d'un être, c'est sa sainteté. Et quelle est la sainteté? La sainteté, dans ce cas-là, d'ultime, c'est la charité. Et la charité, c'est un lien avec Dieu et un lien avec le prochain. C'est un lien et l'unité. C'est la qualité. La qualité, puisque ce n'est pas une substance, ce serait le Saint-Esprit. Le reflet du Saint-Esprit, c'est la qualité. Être à l'ombre de l'Esprit Saint, c'est ce qu'il y a de plus qualitatif. Plan divin. Je crois, c'est pas au plan divin qu'on va saisir ce qu'est la qualité, c'est sûr, mais je fais ça uniquement pour ouvrir une petite porte. C'est le comment de la qualité. Parce que c'est un mystère. Si je saisissais ce que c'était que la charité, je saisirais ce que c'est que l'Esprit Saint. Donc, je ne peux saisir que le comment. Le comment de ce reflet de l'Esprit Saint en moi. C'est ce qui me rend saint. Et la sainteté, c'est la qualité suprême. Ça, c'est sûr. Donc, creusez un peu de ce côté-là. Et vous demandez si la qualité n'est pas pour nous ce qui nous aiderait beaucoup à comprendre l'aspect de la médiation. Est-ce que la qualité n'est pas essentiellement cela? Vous allez dire, mais c'est la relation qui est la médiation. Oui, ça va être autre chose. Je ne sais pas si la médiation n'a pas quelque chose de beaucoup plus qualitatif que la relation. Parce qu'elle permet le lien avec deux. Et elle fait l'unité. Réfléchissez ça. On verra ça avec la relation. Quand on verra la relation. Et petite pierre d'attente. Avançons et posons-nous la question intéressante de ce que représente exactement comme propriété la qualité. Quelle est la propriété de la qualité? La propriété de la qualité, c'est la similitude. Le propre de la qualité, c'est d'impliquer des similitudes, c'est de former des similitudes, c'est de faire des similitudes. La qualité va impliquer du plus et du moins. On peut dire que la qualité implique des similitudes. Elle va faire des unités semblables. Elle est source de similitudes et elle est source de dissimilitudes et de différences. D'originalité, d'opposition. C'est ce qui me semble être le caractère caractéristique de la qualité. Quand deux êtres ont la même qualité, ils sont semblables. La similitude, c'est l'unité dans la qualité, comme l'identité et l'unité dans la substance. En elle-même, la qualité est principe de perfection et non d'unité. Vous voyez, principe de perfection et non d'unité. Mais en second lieu, elle réalise une unité dans la forme, la similitude, dans la qualité. Vous voyez, l'être est immédiatement un. La qualité n'est pas immédiatement une. Mais elle crée la similitude. C'est là où vous voyez la différence entre l'être et la qualité. C'est là où vous voyez la différence entre l'indivisibilité de la substance et l'unité de la qualité. La qualité n'est pas indivisible. Si elle était indivisible, elle ne pourrait pas jouer ce rôle de médiation. Tandis que, puisqu'elle crée des similitudes, elle réalise des médiations. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a divers types de similitudes. Celle qui caractérise la qualité peut impliquer du plus et du moins dans son mode, mais exige la même qualité spécifique. Parce qu'il n'y a qu'une qualité générique, la similitude n'est plus aussi parfaite. Quant à la similitude analogique, elle n'est plus au niveau de la qualité forme, mais de la qualité acte. Nous verrons après. De la qualité fin. Donc l'autre aspect, c'est très curieux, dirais ça, il faudrait y revenir à propos de l'acte. Ce qui me semble net, c'est que la similitude, c'est vraiment la propriété de la qualité. Et ça va bien dans le sens où ça permet les contacts. Il y a une connaturalité qui s'établit par les qualités. Nous avons les mêmes qualités, nous avons la même sensibilité. Il y a une connaturalité qui s'établit. La qualité joue dans la vie de l'homme un rôle extrêmement important, car elle est au point de départ et au terme de toute assimilation vitale. Toute assimilation vitale se fait par le point de vue de la qualité. De ce point de vue, nous pouvons dire que la qualité structure non pas notre esprit et notre être, mais notre vie et le devenir de notre vie. Et c'est vrai. Elle ne structure pas l'être. Qu'est-ce qui structure l'être? C'est la substance. Mais elle permet, elle vient s'ajouter, elle permet à l'être d'avoir un rayonnement. Le rayonnement de l'être se fait par la qualité. Mais elle structure notre vie. C'est pourquoi elle est bien ce qui, en nous, est le plus noble et le plus fragile. C'est du reste à cause de cela qu'on la défigure si facilement. Elle perd alors son éclat, son irréductibilité à l'égard de la quantité, insensiblement. On la ramène au mesurable. Une autre manière de la défigurer, c'est toujours intéressant de regarder les défigurations de la qualité. C'est très vrai que la qualité implique une fragilité et que très facilement elle se défigure. Elle s'abîme. Vous voyez, un être très qualitatif est toujours un être qui connaît une fragilité. Il a beaucoup de finesse, ce qu'on dira, il a beaucoup de finesse. Mais le cristal, c'est du cristal. Ça résonne comme du cristal. Et comme c'est fragile, vous voyez, c'est de l'ordre qualitatif, ça. Et sûrement qu'une des qualités, donc c'est la similitude qui caractérise le point de vue de la qualité, mais c'est quelque chose qui justement a cette noblesse et cette fragilité. Une autre manière de la défigurer consiste à ne plus respecter son ordre essentiel à la fin. Et au fond, on la défigure des deux côtés. Dans son lien avec la substance, dans son lien avec quelque chose qui est un dépassement et qui est la fin. En ne saisissant plus que le propre de la qualité est pour nous de médiatiser la fin, c'est-à-dire de permettre à la fin d'être présent incoativement dans la qualité, c'est en ça qu'elle médiatise la fin. Par la qualité, il y a un reflet de la fin en moi. Comme par la qualité, il y a un rayonnement de la substance en moi. Et c'est la qualité qui va faire le lien entre les deux. Enfin, on peut encore défigurer la qualité en ne respectant plus l'ordre des qualités. Ça aussi, c'est très curieux. Vous voyez, nous avions vu comment la qualité implique tout de suite une diversité. Et donc, elle implique un ordre. Et cette diversité impliquée dans la qualité montre bien qu'elle n'a pas l'unité dans l'ordre de l'être. Elle a une certaine unité de similitude qui peut impliquer une diversité. Et parce qu'elle est diverse, elle va impliquer un ordre. Et quand vous ne respectez pas l'ordre de la qualité, il y a quelque chose qui défigure la qualité. Autrement dit, une qualité dépend d'une autre qualité. Vous ne pouvez pas être un être qualitatif n'ayant qu'une seule qualité. La qualité va donc impliquer tout de suite une harmonie, un ordre. Là encore, c'est de l'ordre de la médiation, vous voyez. Alors, on va regarder maintenant, et c'est par là qu'on va terminer cette recherche sur la qualité, les diverses espèces de qualité. Nous avons vu déjà, plusieurs fois, combien, dès qu'on réfléchit sur la qualité, elle apparaît tout de suite dans des physionomies très diverses. Intérieure, extérieure. Une donnée, quelque chose qu'on acquiert. Impliquant du plus et du moins, et donc réintroduisant le devenir. C'est très curieux. La diversité de la qualité apparaît tout de suite. C'est peut-être pour ça qu'on peut dire que la qualité est par elle-même différence. Elle implique essentiellement une différence. Dans son unité. Donc la qualité par elle-même est différente et donc répugne à être un genre. Elle se divise immédiatement en diverses qualités. Et c'est en ce sens-là qu'il y a un lien entre la qualité et le point de vue de l'analogie. À cause de cette diversité immédiate et cette unité dans la diversité. Alors, si on essaie de comprendre un peu la diversité des qualités et le caractère propre des qualités, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui qualifie le plus l'homme selon l'ordre génétique et selon l'ordre de nature. Selon l'ordre génétique, qu'est-ce qui qualifie le plus l'homme? C'est le point de vue de l'art. C'est ce que l'homme est capable de réaliser. C'est ça qui qualifie un homme. Et vous voyez, aujourd'hui, dans un monde comme le nôtre, le seul aspect qualitatif qu'on regarde, c'est cela. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? C'est la question immédiatement qu'on pose. Quand vous sortez du noviciat, vous dites pas grand-chose. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Quelle est votre valeur d'efficience? Et puis, il y a un autre aspect qualitatif, qui est la contemplation. Quand on vous demande qu'est-ce que vous êtes capable de faire, et vous dites, ah, moi, je suis un contemplatif. Alors, on se mettra à sourire, à dire, on a compris. Et c'est vrai que c'est les deux aspects ultimes de la qualité, au point de vue métaphysique. Dans l'ordre génétique, la qualité est d'abord du côté de l'art. Et du côté perfection, la qualité est du côté contemplatif. Vous avez deux grandes manières de qualifier un homme et de faire que cet homme soit vraiment qualifié. C'est de lui donner une capacité dans l'ordre de l'efficacité. C'est de lui donner une capacité dans l'ordre de la contemplation. C'est les deux extrêmes de la qualité, au point de vue humain. Et je crois que c'est les deux premiers, dans l'ordre génétique, dans l'ordre de nature. Dans l'ordre génétique, c'est normal. L'homme capable de réaliser quelque chose... ce qui vient qualifier le travail. travail d'un devenir. Donc ce qui vient qualifier le devenir de l'homme. Et ce qui vient qualifier sa contemplation. La contemplation n'est plus un devenir. La contemplation, c'est l'unité avec celui qui est ma source. Avec la personne transcendante de Dieu. C'est le regard vis-à-vis de cette personne. Et c'est là où on voit que ce n'est pas réflexif. C'est le regard sorti de soi pour être uniquement dans le regard vis-à-vis de celui qui est la source. En contemplant celui qui a découvert comme l'acte pur et que son âme religieuse appelle Dieu, l'homme s'unit à sa fin ultime, autant qu'il lui est possible ici-bas. Cette contemplation est son véritable bonheur et ennoblit l'homme d'une manière parfaite. Dans la mesure où elle est considérée comme l'ennoblissant, cette contemplation est bien pour l'homme la qualité par excellence. Rien au niveau naturel ne peut l'ennoblir davantage. Donc c'est bien la qualité première dans l'ordre de nature. Alors c'est très important de saisir ces deux extrêmes dans l'ordre de la qualité. Tout de suite. C'est peut-être là, vous voyez, on aurait les plus grandes oppositions et la plus grande diaphora. La plus grande différence. C'est homo faber, l'homme mécanicien, l'homme capable de transformer la matière, et l'homme contemplatif. On touche les deux extrêmes, les deux pointes les plus qualitatives qui existent dans l'homme. Donc à la fois ce qui permet de comprendre toute la diversité qui est dans l'homme, et en même temps de comprendre, puisque ce sont deux qualités de l'homme, qu'il y a quand même quelque chose de commun. Cette contemplation, donc, est le point de vue ultime. Cette contemplation, pour être parfaite, suppose que l'intelligence humaine, en ce qu'elle a de plus fondamental, au-delà de la distinction de la raison et de l'amour, soit déterminé et qualifié. C'est ce qu'on appelle l'habitus de sagesse. L'habitus de sagesse vient qualifier l'intelligence pour lui permettre de contempler. Et c'est bien la qualité suprême. C'est l'habitus par excellence, ce qui met notre intelligence dans un état d'attente, d'éveil, de capacité à l'égard de celui que l'intelligence a découvert comme son Dieu. C'est tout ça qui est impliqué dans cette habitude de sagesse. Cette habitude de sagesse ouvre notre intelligence et notre cœur, et met notre intelligence et notre cœur en état d'attente. Et c'est ce que Heidegger considère comme le plus élevé de l'être humain. De l'être, pour lui. Nous disons de la qualité. On est en attente de Dieu. C'est très beau, du reste. Il souligne ça d'autant plus quand on a dit qu'il était un athée. Il dit pas du tout. Il dit, toute ma philosophie est une attente de Dieu. Puisque penser l'être, c'est pas penser Dieu. Dieu n'est pas l'être, Dieu est au-dessus. Donc penser l'être, c'est se mettre en attente de Dieu. Et c'est peut-être là où on touche le mieux ce que nous appelons, nous, habitus de sagesse, et donc une qualité. Heidegger l'appelle pensée-l'être. Alors on voit bien toute la différence. J'ai dit ça, c'est parce que c'est toujours très intéressant d'essayer de comprendre des parallélismes d'une intelligence qui cherche et d'une intelligence qui essaie de découvrir la réalité. Heidegger veut découvrir la réalité. Alors qu'est-ce qu'il découvre quand il parle de l'être? Est-ce qu'il découvre la substance ou est-ce qu'il découvre la qualité? Et je peux appeler la qualité être, ça n'a pas d'importance, le tout c'est de savoir que c'est la qualité. L'autre philosophie de la qualité, c'est Platon. Je crois que Platon ne dépasse pas la qualité. Il reste au niveau qualité. Et ce qu'il appelle ousia, ce qu'il appelle être, c'est en réalité la qualité. Alors c'est aussi très important de voir ces deux grands qui sont deux philosophes de la qualité, mais qui ne sont pas au sens strict philosophes de l'être. Platon, lui, le dit, puisque pour lui, la bonté et l'un en sont au-dessus. Tandis que pour Heidegger, l'être est quand même ce qu'il y a de suprême. Donc voyez bien que cet habitus de sagesse met l'intelligence dans un état d'attente, d'éveil, de capacité à l'égard de celui que l'intelligence a découvert comme son Dieu. Cet habitus exprime un avoir qualitatif, mobilisant et ordonnant toutes les virtualités, toutes les énergies des pouvoirs de connaître et d'aimer qui existent dans l'homme. C'est ça la sagesse. Et ça reprend toutes nos énergies intellectuelles, de connaissances, pour les mobiliser dans cette attente de Dieu. Le sage, c'est celui qui attend Dieu. C'est celui qui est toujours en état d'alerte pour attendre Dieu. Parce qu'il sait que le moindre contact avec Dieu est plus précieux que tout le reste. Et c'est pour ça qu'il est mobilisé pour cette attente. C'est l'habitude de sagesse qui nous mobilise dans cette attente vis-à-vis de Dieu. Et nous met dans cet état de comprendre que ce qu'il y a de plus grand, c'est ce contact avec Dieu. Donc on est là en attente. La sentinelle, comme dirait l'Écriture. On est celui qui attend. Et qui n'a pas d'autre but que d'attendre, puisque c'est ce qu'il y a de plus grand. Ce qu'il y a de plus grand, c'est ce moment de rencontre avec Dieu. Et l'habitude de sagesse, donc mobilisant en nous toutes nos virtualités de connaissance et d'amour, nous met dans cette attitude de celui ne s'impatiente plus. C'est juste l'inverse de la sagesse, s'impatienter. Il ne s'impatiente plus, puisqu'il est en totale dépendance du bon plaisir de Dieu. Il sait que c'est seulement Dieu qui exerce sa sagesse. Il ne peut pas, par lui-même, l'exercer. Pour qu'elle soit efficace. Je dirais que c'est même vrai au plan philosophique. Le sage, c'est... Vous voyez cette parole d'Aristote qui est quand même très, très mystérieuse et très belle, quand Aristote dit que le sage, c'est celui qui par moment vit ce que Dieu vit. Par moment. Donc, il est en attente.